Alors, l'actualité ne nous a pas tout à fait lâchés, d'abord parce qu'on est en pleine crise et on l'a encore vu le dimanche soir ou lundi matin aux actualités. L'Europe pour l'instant, l'Amérique sans doute demain, peut-être l'Extrême-Orient après-demain se débat avec des problèmes financiers sans nom. Soit dit en passant, il semblerait que le groupe La Poste, lui, passe pour l'instant sur un nuage et peut-être, Monsieur le Président, avez-vous quelques regrets d'avoir été trop vertueux? Je ne sais pas, mais vous nous le direz. En tout cas, il y a une vraie crise qui se traduit par un certain nombre de douleurs dans le monde du travail aussi. Pour en revenir à notre sujet, le patronat et les syndicats ont négocié il n'y a pas très longtemps, le 26 mars, un accord sur la pénibilité au travail où ils ont reconnu que certains modes de management pouvaient avoir un impact sur la qualité du travail. Pour les syndicats, vous voyez une avancée. Voilà donc des éléments d'actualité qui font qu'on est effectivement toujours quand même dans un sujet qui ne nous lâche pas. Voilà donc mes chers amis et Monsieur le Président, un petit peu pour situer, si je puis dire, le point où nous en sommes rendus à l'instant présent. Je vais maintenant peut-être très brièvement vous présenter, sans beaucoup d'humilité, pardonnez-moi, parce que c'est difficile de présenter votre parcours. Il a ceci en tout cas de particulier, donc vous êtes un enfant du monde des corons miniers, du monde du Nord, vous êtes né, je crois, à Hénin-Guettard, vous venez d'un beau monde depuis lors, vous intégrez 8-7-18 ans et vous faites votre carrière, toute votre carrière, dans le même groupe, la RATP, de 1970 à 2002. Vous terminez comme président et vous avez été à la tête de cette entreprise, le fondateur, l'initiateur de l'alerte sociale, qui est un moyen de déminer les conflits avant qu'ils n'empirent trop et qui s'est traduit par une baisse assez spectaculaire du nombre de jours perdus pour faire grève, dans un rapport, je crois, de 2 à 1. Donc c'était tout à fait inédit dans l'histoire de ce groupe et ça a été vraiment votre contribution, je pense, majeure en termes de visibilité statistique. En 2002, vous êtes appelé à prendre la tête du groupe La Poste et vous devenez donc, depuis ce temps-là, depuis 8 ans, le deuxième employeur public de France derrière le ministre de l'Éducation nationale. Donc, il y a un groupe de 300 000 personnes qui est certainement difficile à manager et qui appelle sans doute effectivement quelques-unes des recettes que vous aviez testées à la RATP. Vous êtes donc aujourd'hui le patron de La Poste. Et pour nous, si on vous a demandé de venir, sincèrement à nouveau d'avoir accepté de venir, c'est parce que après avoir vu, après avoir un petit peu jugé, testé le problème vu du côté des cadres, on voulait aussi voir du côté d'un haut dirigeant et peut-être d'une certaine façon agir par procuration, par le témoignage et les analyses, la vision que vous allez nous livrer tout à l'heure. Donc on est très à votre écoute. Je voudrais peut-être, en notre nom collectif, et avant de vous passer la parole, vous dire un peu comme titre de question, je préempte un petit peu peut-être la parole de mes collègues, ils auront, je pense, le temps de se livrer tout à l'heure dans le jeu de questions. C'est trois questions qui me paraissent peut-être un petit peu importantes au stade actuel de notre réflexion. La première, c'est, évidemment, on est là pour écouter votre témoignage. Ce nonobstant, vous êtes patron dans un secteur un peu particulier, qui est une société anonyme et plutôt 100% publique, c'est une société publique, dont l'actionnaire est peut-être un petit peu plus indulgent à votre profitabilité que ne peut l'être un fonds de pension américain. Et donc, on voudrait savoir si, de votre point de vue, effectivement, le témoignage que vous nous livrerez, la vision que vous nous livrerez, est un petit peu transposable à toutes les sociétés un peu plus privées qui sont dans le mainstream du management un peu à la hussarde qu'on connaît aujourd'hui. Et si en gros, il vous paraît possible d'être si je puis dire, un patron humaniste aujourd'hui encore. Pardonnez-moi cette caricature, mais c'est juste ça, la vertu de la caricature. La deuxième question, à mon avis, qui nous intéresse, nous qui sommes pour la plupart donc, des cadres, c'est l'encadrement pour vous, ça sert à quoi? Un des orateurs qu'on avait prévu de faire venir la dernière fois et qui finalement s'est décommandé cause de maladie au dernier moment, François Dupuis, sociologue, n'a pas hésité à prédire la fin du management qui serait à la limite un produit chimique intermédiaire dans une réaction complexe allant des sociétés primitives hiérarchiques ou non hiérarchiques à une société où on aurait d'un côté des cadres survitaminés au bonus et puis de l'autre un prolétariat plus ou moins formé dans les écoles et plus ou moins concepteur, mais en tout cas pas destiné à participer à l'acte de direction. Donc est-ce que l'encadrement, c'est vous, et son rôle? Je pense que c'est une question importante. La troisième question, c'est celle du développement d'entreprise par rapport à la gestion. On est plutôt de formation technique, nous tous ici présents, hein, sans doute un petit peu de... Pour la plupart, on est des gens de formation technique, on est plus attachés à créer ou à développer qu'à administrer ou à gérer. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont même fait leur assemblée générale dernièrement sur ce thème. Ils ont été créateurs d'essentiel, sans vanité aucune. Et donc, nous savons que vous avez, à l'occasion de cette augmentation de capital de la Poste, appelé et obtenu, je crois, une possible diversification de votre portefeuille, notamment dans le domaine du crédit ou dans d'autres activités, et que pour vous, c'est sans doute une clé qui permet de faire passer la transformation nécessaire de votre groupe. Donc c'est une question qui, je pense, nous intéresse tous et sur laquelle on va avoir plaisir à vous entendre. Voilà, je pense qu'à ce stade, nous allons vous laisser la parole, à moins qu'il y ait une question rentrée de la salle, et naturellement, on aura le temps du débat avant qu'à 21h30, nous vous remercions chaleureusement de votre présence. Voilà, merci beaucoup.
Capitaine par gros temps, et je me suis dit que j'allais organiser mon témoignage autour de cette idée-là, en vous disant d'abord que, effectivement, il se trouve que je suis quand même plutôt à la fin de ma carrière qu'au début, et que j'ai été deux fois huit ans président directeur général de la RATP dans la 8e année à la Poste. Capitaine par des temps qui n'ont pas été toujours simples. J'ai effectivement eu dans ma carrière pas mal de gros temps et pas mal de secousses. Et pourtant je me suis toujours appliqué à essayer de moderniser ces grandes entreprises publiques. Au fond, ma carrière a été consacrée à cette modernisation avec une ligne directrice qui a toujours été la même, qui est et qui est très liée au sujet qui vous intéresse, qui est moderniser son serrurier. C'est-à-dire que on vit aujourd'hui dans un monde très incertain, dans un monde, un environnement qui bouge beaucoup, et les entreprises ont besoin en permanence de s'adapter. C'est une question absolue de survie. J'entendais la question tout à l'heure, est-ce que c'est un actionnaire plus indulgent ou moins indulgent? La première règle, c'est que dans les environnements qui s'adaptent qui évoluent à la vitesse à laquelle ils évoluent, les nécessités des vitesses d'adaptation doivent être au moins égales à la vitesse d'évolution de l'environnement, si on veut, ne serait-ce que survivre. Donc, l'adaptation est vitale, le changement est la règle. Et pourtant, les gens ont quand même besoin de repères et de stabilité. Et donc, J'ai toujours essayé, et je vais essayer de vous le démontrer, parce que je crois que dans la santé des gens, qu'il s'agisse de la santé physique ou de la santé psychologique, le fait de comprendre le sens du changement, tout en restant fidèle à un certain nombre de valeurs ou à un certain nombre de caractéristiques ou de missions d'entreprise, est quelque chose de tout à fait important. Et je crois qu'il faut toujours essayer d'articuler son action entre de la stabilité, des repères, et je reviendrai parce que dans la manière dont j'ai toujours conduit le changement, il y a toujours des éléments de constance et de repères. Et puis l'adaptation, qui est la dynamique de tous les jours, et l'innovation, qui est ce qui prépare l'avenir. Parce que les gens ont besoin de repères, mais ils ont besoin de vision aussi. Ils ont besoin d'un peu de rêve. Ça fait partie de la bonne santé des gens. C'est la bonne santé de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, je rejette complètement l'idée de se focaliser sur le poste de travail, sur le mécanisme, sur l'élément de la souffrance, d'avoir une vision complètement micro de ce problème. Le problème est beaucoup plus général que ça, il est macro. Et moi, je vais vous parler de macro, je vais vous parler un peu de micro si vous voulez, mais je vais d'abord vous parler de macro parce que la micro sans macro, elle n'a aucun intérêt. Donc, témoignage de, par rapport à gros temps, je vais juste quand même vous résumer en deux ou trois mots les tempêtes qu'on peut rencontrer dans une vie. D'abord, la première tempête que j'ai rencontrée, c'est quand j'ai eu à redresser un atelier qui était un atelier de maintenance des autobus. Et qui était un atelier où il y avait 1000 personnes, il y avait du travail pour 200 ou 300 personnes. Et il y avait un niveau de politisation et de syndicalisation absolument minime. Et avec des vécus des périodes qui sont des périodes qui vous forment. Des périodes où on rentre dans un atelier, il y a 300 personnes qui vous entourent et des poulons qui volent. Dans un atelier, il y a 300 puces qui klaxonnent, et des gens qui ont pris au parleur et qui accueillent le fossoyeur de service public. C'est des choses qui marquent, et c'est des choses qui vous forment. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, donc ça va très bien. Et puis ensuite, à la RATP aussi, j'ai quand même eu à vivre des moments difficiles. D'abord, la grève de 95, où il n'y a pas eu de métro pendant. De bus d'ailleurs, pendant 18 jours. Vous êtes le patron de l'RATP et qu'il n'y a pas un bus, pas un métro pendant 18 jours, et vous voyez de votre bureau, vous avez quand même tous les jours tous les Parisiens et tous les Franciliens marcher pendant des heures, et là, ça vous fait réfléchir. Il n'empêche que moi je tire de cette période-là une leçon très importante. La première, c'est que même dans ces périodes-là, il faut jamais rompre le dialogue. Et la deuxième, c'est que, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement, le monde est ainsi fait que c'est dans les crises, c'est en rebondissant des crises, qu'on peut le plus progresser les choses. Et l'alarme sociale dont vous parlez, il est né de la grève de 95. La grève de 95 s'est terminée à Noël 95, et on a signé l'accord social en mai 96. Parce qu'il y a eu tout d'un coup une espèce de prise de conscience collective des responsables des jeunes organisations syndicales qui étaient du style plus jamais ça. Plus jamais 18 jours sans un système de transport pour les parisiens. Et on a dit, on va essayer de réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller dans la bonne direction et d'améliorer ça. Et puis, il y a eu des problèmes de sécurité terribles. Maintenant, on ne les a pas oubliés, ils sont beaucoup sur les bus. Et il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y avait des campagnes sur l'insécurité dans le métro qui étaient absolument terribles. Et il y a eu des attentats. Et les attentats de 95, où il y a eu 8 morts, et en 96, il y a eu 4 morts. Donc tout ça, c'est des vraies tempêtes hein, qu'il faut traverser. Et si je regarde, à la poste, c'est un environnement qui est incroyablement bouleversé. D'abord, avec l'ouverture totale des marchés. Ce qui, évidemment, un impact important sur le fonctionnement d'une entreprise. Encore plus important que l'ouverture des marchés, l'avènement de la société numérique. Une entreprise comme sur la poste, une de ses activités importantes, c'est quand même le courrier. Si je dis une de ses activités importantes, c'est que la poste, si je vous faisais deux, trois tests, est une entreprise totalement méconnue. Alors, totalement méconnue. D'abord, les gens ne savent pas quel est l'ordre de grandeur de son chiffre d'affaires, qui est quand même 21 milliards d'euros, qui en fait la 20e entreprise française, à peu près en termes de chiffre d'affaires, et la première entreprise française en termes de valeur ajoutée. Première entreprise française en termes de valeur ajoutée. Et la Poste en valeur ajoutée représente à peu près 1% de la valeur ajoutée en France. 1% de l'emploi. La Poste en France. En réalité, on voit que le bout du service, c'est-à-dire le facteur qui appuie au vélo à mes lettres, ou le petit bureau de poste de la campagne. Et ça, c'est juste l'extrémité, une des pointes visibles de l'iceberg. En réalité, la Poste est une énorme entreprise industrielle. De très loin, la plus grande entreprise industrielle et logistique de France. En logistique, la plus grande de très très loin. C'est juste un chiffre rien que pour le courrier. La Poste transporte chaque nuit 70 millions d'objets qui partent de 500 000 points et qui sont distribués le lendemain dans 24 millions de points. Imaginez juste l'organisation logistique que suppose un travail de ce type-là. Et au-delà de cette vision industrielle, je vous dis que la Poste, dans le domaine du collier de l'Express, est le premier opérateur européen dans son domaine. Que nous avons 6 000 salariés en Allemagne. Et que nous faisons 1 milliard de chiffre d'euros en Allemagne. Que nous faisons dans le domaine du collier de l'Express plus de chiffre d'affaires en Allemagne qu'en France. Et si je vous parlais de la clientèle de la Poste. De la Poste, elle est exclusivement industrielle, bien plus que la clientèle d'EDF. EDF, son chiffre d'affaires, c'est entre l'industriel et le grand public, c'est 50-50. La Poste, c'est 90-10. Si vous pensez à la Poste, pas à la Poste, entre à la carte postale que vous envoyez, ce que les Français s'écrivent entre eux, c'est moins de 3% de trafic. Que tous les Français nous confient comme lettre quand ils s'écrivent entre eux. C'est moins que ce que nous confie notre premier client. Et puis, souvent, quand on parle du statut, on confond tout. Et les gens mélangent le statut de l'entreprise et le statut du personnel. Mais la Poste, il n'y a pas de statut du postier. Il y a des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires d'État, et depuis 10 ans, uniquement des salariés de droit privé. Dans le groupe La Poste aujourd'hui, il y a plus de salariés de droit privé que de fonctionnaires. Voilà. Donc c'est toujours utile quand même de se dire, attendez, là, voilà de quoi on parle. On parle d'une vraie grande entreprise qui en même temps est dans le domaine du courrier le premier logisticien de France de très loin, dans le domaine du collier de l'Express le premier opérateur dans son domaine, le premier opérateur européen, et dans la banque de détail, la troisième banque de détail de France. Avec 10 millions, de clients actifs et 270 milliards de dépôts. C'est ça la Poste. C'est pas juste le facteur avec son enveloppe et le bureau de poste de votre maison de campagne. Donc c'est pour ça que c'est. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est utile. Parce que sinon, on sait pas trop, entre nous, on sait pas trop de quoi on parle. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme choc? On a eu l'ouverture des marchés, l'avènement de la société numérique. Et ça, c'est un point très important, parce que c'est pas juste l'arrivée d'Internet. L'Internet n'est pas un concurrent pour nous. Comme on ne se bat pas contre la marée, on ne se bat pas contre les grands dominants, on ne se bat pas contre Internet, on ne sait pas de battre Internet. Internet, c'est quelque chose qui. Et puis tout le numérique, quelque chose qui transforme radicalement notre société et à laquelle il faut évidemment qu'on s'adopte, avec ce que ça représente de menaces et ce que ça représente d'innovation et de capacité mouvement des évolutions de l'environnement, les nouvelles attentes des collaborateurs en matière de responsabilité, en matière de santé, en matière de responsabilité. Bref, c'est vrai qu'on a vraiment eu, comme tout le monde, et peut-être plus que certains, notamment du fait de l'ouverture des marchés, de l'avènement de la société numérique et puis des enjeux autour du statut, des transformations, des transmutations extraordinaires de notre environnement et de l'entreprise au cours des dernières années. Donc on est dans un monde de véritablement de transformation et de changement. Alors, comment faire ? Comment faire pour y arriver et comment faire pour que les gens à l'intérieur se sentent quand même bien ? Dans une entreprise qui va changer. On est obligé de changer leurs habitudes, de changer leur métier, de changer leur lieu de travail, de changer leurs horaires. Ça, les vrais sujets. Et pour reprendre le témoignage du capitaine Pargrotan, je pense que dans la tempête, ce qu'il faut avant tout, c'est savoir où on va. Et c'est pour ça que je voudrais des sujets de manière globale. Pas vous dire c'est le truc de petit poste de travail. Non. D'abord, chacun d'entre nous dans la société, tout, il faut d'abord savoir où on va. Et donc, ma manière de manager, ça a toujours été de passer beaucoup de temps sur la stratégie, sur la vision, sur l'ambition. Beaucoup de temps. Si on a beaucoup de temps sur la manière de le construire, de manière très ouverte et très participative. Si on a moins de temps, de toute façon beaucoup de temps pour faire la pédagogie autour de cette vision et de ce projet. Pourquoi il y a besoin de cette vision et de ce projet ? Parce que de toute façon, les gens ne travaillent bien que s'ils comprennent ce qu'on leur demande. Les gens ne travaillent bien en équipe que si on peut aligner les énergies et si tout le monde pousse dans le même sens. Et pour pousser dans le même sens, il faut savoir où on va. Donc c'est absolument vital d'avoir cette vision et d'y passer le temps qu'il faut. Petit personnel, je rencontre les cadres de l'entreprise, je rencontre dans des conventions à peu près 600 ou 700 cadres de l'entreprise par mois, dans toute la France. Au bout de l'année, j'ai rencontré 8 ou 10 des cadres avec qui j'ai pu parler, avoir un échange, leur dire voilà ce qu'est l'environnement, voilà où on va, voilà pourquoi on y voit, voilà comment on va essayer d'y aller, et voilà ce que j'attends de vous. Mais si on ne fait pas ça, dire tout le reste, ça ne peut pas fonctionner. Donc, règle numéro 1, avoir une vision. Deuxièmement, il faut que, contrairement à ce qu'on pense, le pire, c'est l'immobilisme, le statu quo, la répétition, rien ne change. En réalité, les gens, ils ont un peu peur du changement, mais ils aiment que ça bouge un peu. C'est pas vrai qu'on aime être dans un truc totalement immobile qui se répète de jour en jour. Les gens, ils aiment le mouvement. C'est un peu la du changement, mais ils aiment le mouvement. Ils aiment le projet. Alors, ils aiment les projets, mais ils ont peur du changement. Donc, il faut conduire les projets. Donc, le deuxième point, c'est que on fait absolument en sorte que toute l'entreprise soit en mouvement. Et aujourd'hui, je pense que vous avez du mal à trouver un secteur de l'entreprise qui ne soit pas en mouvement, qui ne soit pas en projet. Mais avec une vision du projet où les gens sont acteurs de ce projet, et surtout une vision globale du projet. C'est-à-dire un projet, ce n'est pas juste un projet technique avec une perspective financière. Un projet, c'est un projet économique et industriel, bien sûr. Si c'est mal pensé au point industriel, c'est un échec. C'est un projet commercial. Si c'est mal pensé au point du produit ou de la commercialisation ou du marketing, ça ne marche pas non plus. C'est un projet managérial. Si vous n'êtes pas réfléchi à la manière dont ça allait fonctionner, c'est-à-dire à l'échec pareil. C'est un projet social. Si vous n'avez pas associé les gens. C'est un projet territorial. C'est un projet politique. C'est un projet sociétal. Et donc, le deuxième point, c'est de faire comprendre à tout le monde que dans la vie, tout est multidimensionnel. Que c'est pas vrai qu'il y a de l'unidimensionnel. Et tous les modes, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, tous les modes de gestion qui se réduisent à de l'unidimensionnel sont à rejeter. Parce qu'ils ne prennent pas en compte la réalité. Et si réalité, pas du tout susceptible d'engendrer le développement et de créer des conditions de la réussite à moyen terme. Donc, avoir un cap, être en mouvement, c'est que. Et puis, un peu comme dans la tempête, être manœuvrant. Gérer, être manœuvrant avec l'environnement, avec le temps. Et quand vous êtes dans une tempête, il faut savoir vous mettre à la cape. Il faut savoir prendre un cap de fuite. Il faut savoir s'éloigner de terre, s'éloigner des dangers. Et il y a tout un travail dans le management qui est la gestion de cette manœuvrabilité. La gestion de cette manœuvrabilité, c'est vrai du temps. C'est fondamentalement vrai du temps. Et en permanence expliquer à chacun que c'est pas une bonne règle d'être toujours très pressé. Parce qu'être très pressé, on peut faire beaucoup de bêtises. D'abord, on n'a pas le temps d'expliquer les choses. Et puis deuxièmement, il faut être capable de bien positionner une décision dans le temps. En France, une décision, c'est juste qu'est-ce que je décide. Chef, qu'est-ce que je décide. C'est comme c'est la décision en France, c'est le quoi. De quelle décision? On vous parle du contenu de la décision. Dans la culture anglo-saxonne, qui n'a pas que des inconvénients, prendre une décision, chacun le sait, ça se dit « to make a decision ». Et cette philosophie-là, elle est juste. Une décision, ça ne se prend pas, ça se fabrique. La manière dont on l'a fait, la manière dont on l'a construit, son contenu, le comment, le quoi et le quand. Le quand dans la décision est absolument vital, ni trop tôt ni trop tard. Des décisions qui ne sortent jamais parce qu'on veut prendre la meilleure décision. Et si le temps optimal est passé, c'est bien. Ça fait longtemps que la meilleure décision, de toute façon, c'est foutu. Des décisions trop tôt précipitées qu'on n'a pas eu le temps de préparer et qui du coup ne sont pas comprises et ne peuvent pas être appliquées, c'est pas non plus des bonnes décisions. Peut-être que dans l'absolu, le contenu est la bonne décision. Si elle est prise dans des conditions telles qu'elle n'est pas comprise, n'est pas applicable, n'est pas appliquée, ce n'est pas une bonne décision. Et, pourtant c'était une bonne décision. Désolé. Si elle n'a pas été appliquée, pas comprise, rejetée, ce n'est pas une bonne décision. Donc, gérer en permanence la manœuvrabilité dans la tempête, ça me paraît un point tout à fait important. Après, évidemment, il faut, ce que je dirais, un bon navire. Bon navire, c'est d'avoir une bonne organisation. Une bonne organisation, c'est une organisation, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est une organisation qui est performante et responsable. À la Poste, on a tout restructuré d'abord par grand métier, où les gens sont de vrais professionnels dans leur métier. Avant, c'était des généralistes. Ce que je leur dis souvent, vous étiez tous des champions de triathlon. Sauf que c'était pas un championnat de triathlon qu'on fait. C'est un championnat où il faut être meilleur que vous. C'est un championnat de cyclisme, c'est un championnat de natation, un championnat de course à pied. Les gars en face de nous, c'est le meilleur logisticien du monde, c'est la meilleure banque du monde. Voilà, c'est pas des mecs qui font du triathlon comme nous. Si on veut être champion, il faut être spécialisé. Il faut être professionnalisé, donc on a réorganisé toute l'entreprise par grand secteur d'activité, alors que c'était une entreprise qui était organisée par. Comme l'administration, par territoire, par département. Vous voyez, j'en ai toutes les organisations. Et puis, une fois qu'on a mis en place une organisation responsable, il faut faire en sorte qu'elle soit efficace. Et donc, on a réduit le nombre de niveaux hiérarchiques. On est passé à trois niveaux, toute l'entreprise, national, territorial, établissement. Simple. Quand on parle des questions, on veut dire. C'est absolument vital pour que les gens se sentent bien, qu'ils soient dans des organisations efficaces. C'est pas vrai qu'on se sent bien dans une organisation pas efficace. Absolument faux. Il faut être dans une organisation efficace. Il faut être dans une organisation efficace, d'autant plus que on a mis en place un système de management qui, à mon avis, est absolument vital, pour l'efficacité qu'on a appelé les 3 S. Image. 3 S, ça veut dire sens, soutien, suivi. Sens, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. De toute façon, c'est pas la peine de demander aux gens de travailler, de faire quelque chose, de rentrer dans un projet, s'ils n'ont pas compris l'ambition, c'est-à-dire où on va, et dans ce où on va, ce qu'on a dans eux. Passage, ça veut dire que les gens, ils ont quand même des objectifs. Et rien pour le fait de dire que les gens ont des objectifs. Si c'est un objectif, mono, machin, ça, c'est pas bien. Puis que globalement, ils aient un objectif avec des éléments économiques, des éléments sociaux, des éléments de conduite de projet, évidemment, que c'est important d'avoir des objectifs. Bon. Donc, premièrement, le sens. Et ça vaut pour un président comme pour un chef d'équipe. Chacun son niveau avec son type de responsabilité. Ça vaut pour tout le monde. Deuxièmement, le soutien. Le soutien, c'est la partie la plus importante de tout. Ça consiste à créer les conditions de la réussite des gens. Créer les conditions de la réussite des collaborateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans le soutien? Il y a d'abord la formation et la compétence. Capable faire ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Il y a ensuite des outils. La bonne organisation du travail. Le bon système de motivation. La bonne organisation logistique. Bref, être dans des conditions où on a créé autour de vous le bon cadre de travail. On a créé autour de vous les conditions de la réussite. Souvent, un manager qui réussit, qu'est-ce que je demande à un manager? Un manager qui réussit est un manager dont les collaborateurs réussissent. Point, simple ça. Voilà, il ne faut pas dire celui-là il est bon, pardon. C'est son boulot, il a les collaborateurs, il a l'équipe. Bien. On a tous des collaborateurs plus ou moins bons. Comme disait McNamara, il a envoyé fusée sur la Lune, il parlait de la NASA, et qu'est-ce que c'est qu'un bon manager? Un manager, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Et c'est très très vrai. On est tous, enfin, la majorité, puis c'est normal. Et heureusement, il y a mieux gérer une équipe où il y a des gens bons, des gens moins bons, des gens ordinaires et des gens qui s'assurent, qu'une équipe où il n'y a que des génies. C'est juste ingérable. Bon. Donc, voilà. Donc, et puis le troisième point du soutien des 3 S, c'est le suivi. C'est la logique, c'est simplement, à partir du moment où on dit aux gens ce qu'on attendait d'eux, qu'on a créé les conditions de la réussite, c'est normal qu'on soit exigeant sur le résultat. Il n'y a rien de mal à être exigeant sur le résultat. Au contraire, les gens sont malheureux si on n'est pas exigeant sur le résultat. Vous avez que l'orateur, vous ne demandez jamais où il en est, où il en est, comment ça avance, est-ce qu'il a bien atteint ses objectifs. S'intéresse pas à ce que je fais. Il y a tellement d'idées fausses, c'est normal d'être exigeant. Et c'est bien vécu d'être exigeant. Si c'est fait dans des si c'est fait correctement. Être exigeant, c'est dans des choses impossibles pour lesquelles les gens n'ont pas les outils et sur des objectifs où ils n'ont pas donné leur avis, ça c'est autre chose. Mais si on a créé des conditions correctes de management et de philosophie, évidemment qu'il faut être exigeant. Donc, ça c'est un bon avis. Il faut essayer aussi de s'organiser autour de certains nombre de priorités claires. Mais dans le cadre d'un projet d'émission de service public, je ne développe pas ce point-là. Même si je vais quand même dire une chose sur l'émission de service public, c'est que en général, l'émission de service public, personne ne sait ce que c'est. Alors là, pour son même chance, c'est que les missions de service public, elles sont parfaitement définies. Il y en a 4, parce que si je vous parle, j'étais à la RTP, alors je peux vous en parler. C'est quoi les missions de service public? On parle partout, mais d'ailleurs, pour dire ce que c'est, ce que ça comporte, le cadre de France. Alors, c'est très simple. Là, il y en a 4, elles sont définies par la loi. Les 4, pas une de plus, pas une de moins. Il y a la distribution du courrier, 6 jours sur 7 sur tout le territoire. Il y a l'accessibilité bancaire au travers du courrier. Et la présence territoriale sont pas connues, quand elles ne sont pas parfaitement définies, alors se développe un discours qui oppose la performance et la dissociation. Parce que, on dit, pour être performant, ils vont faire moins de services publics. Mais la réalité, c'est que c'est exactement le contraire. Si les missions de services publics sont bien définies, elles sont impératives, comme un cahier des charges, dans n'importe quel entreprise. Le service public, c'est un cahier des charges. Il s'impose à tous. Mais le service, une fois que ce cahier des charges, il faut le tenir et le respecter, évidemment que plus on est performant, mieux on le tient. Il faut avoir 17 000 points de présence sur le territoire. Il y a 17 000 points et 17 000 points. Ça peut être 17 000 points qui ont en moyenne 50 ans d'âge, ou 17 000 points qui sont rénovés tous les 10 à 15 ans, comme rénover une agence bancaire ou une boulangerie. Il n'y a aucune raison qu'un service public soit dans des vieux locaux, qu'il ne soit pas à la pointe du monde. Mais pour faire ça, il faut de l'argent. Il faut être capable d'investir 200-300 millions d'euros tous les ans dans les groupes. Moi, je suis arrivé, la Poste ne gagnait pas d'argent. Elle a rénové 100 bureaux de poste par an. Elle en a 17 000, faites le compte, combien de temps il faut pour le rénover. Ouais, franchement. Aujourd'hui, on en rénove plus de 1000 par an. Donc on a un programme tel qu'en 2015, tous les bureaux auront été rénovés entre 2000 et 2015. Et pour ça, il faut gagner de l'argent. Et si je gagne de l'argent en respectant ma mission de service public, j'assume mieux ma mission de service public. Donc il faut sortir aussi des qui oppose comme ça la service public et la performance. La performance est une bonne chose. C'est absolument vital de gager des résultats pour se moderniser, pour se développer. C'est vital pour une entreprise, la performance. Il n'y a pas de performance, elle ne se développe pas, ça c'est la moindre des choses. Elle finit même par être décalée, ne pas se moderniser, ne pas avoir les bons outils, ne pas avoir les bons services, être décalé par rapport à ce que attendent les gens, ne même plus pouvoir rendre vraiment ces missions de service public. Parce qu'en fait, les missions de service public, elles s'évoluent en permanence, elles s'évoluent avec ce qu'attendent les gens. Mission de service public, à la sortie de la guerre, c'était le même service pour tous. Aujourd'hui, le service public, c'est un service adapté à chacun. C'est évident, ça a complètement changé. Cette espèce de vision d'effort misérabiliste, ça ne peut pas être ça. Si vraiment on aime le service. Et donc, c'est surtout ce dont je voulais vous parler, c'est surtout de la performance. Je pense que pour ne pas avoir peur en partie de l'entreprise, de dire que la performance est vitale. Et pas n'importe quelle performance. La performance que moi j'appelle la performance durable. D'abord, je vous fais une pédagogie qu'on vient de faire, mais pourquoi c'est important, cette performance. Mais il faut surtout faire en sorte qu'on crée les conditions de la performance, durable, pas seulement au sens de la performance durable de l'environnement, mais au sens de la performance, que la performance d'aujourd'hui soit faite dans des conditions telles que l'entreprise soit encore plus performante demain. Et c'est là où il y a un rapport avec la santé. C'est que ce qui fait la performance d'aujourd'hui, c'est la performance d'aujourd'hui. Ce qui fait la performance de demain, c'est la bonne santé de l'homme. Et donc, il faut qu'en permanence, et c'est ça la performance, l'entreprise soit et performante et en bonne santé. Et il ne faut pas croire que c'est la même chose. Parce que si vous faites votre performance en épuisant le personnel, vous n'êtes pas une performance durable. Si vous faites vos performances en investissant pas ce qu'il faut investir, vous aurez de très bons résultats dans l'année qui vient, mais pas l'année d'après. Si vous faites une performance en n'étant pas suffisamment innovant, vous n'êtes pas dans la performance durable. Donc, ce qu'il faut, c'est être exigeant sur la performance durable, c'est-à-dire sur la performance qui se renouvelle en permanence dans le temps. Et puis, bien sûr, il faut un bon équipage. Il faut un bon équipage, et pour ça, moi, je me suis toujours attaché à ce que, y compris dans le cas de la Poste, par exemple, où ce qu'il y a à faire est difficile, parce que vous avez l'activité principale, le courrier, dont les volumes en ce moment diminuent de 5% par an. Comment vous gérez une entreprise dont le volume, donc le chiffre d'affaires, diminue, alors avec les augmentations, avec les tarifs, etc., les prix, bon, bascule majeure avec votre personne syndicale. Je ne peux pas vous, sur l'emploi, vous n'entendrez jamais prendre de garantie sur la quantité de l'emploi. Parce que c'est juste pas possible. Mais je peux vous garantir deux choses. La première, c'est qu'on va transformer les organisations, que ce soit des organisations qui seront moins coûteuses en emploi, et que dans ces organisations-là, il y aura toujours l'emploi nécessaire. Une chose est de dire, il y a la stabilité des emplois, et une chose dit, on fait employer les organisations qui sont moins coûteuses en emploi, évidemment, on prend l'engagement, que ces engagements sont, que ces organisations peuvent opérer. Oui, il y a des effectifs, nécessaires. Et surtout, on ne prend pas d'engagement sur la qualité de l'emploi, la quantité de l'emploi, mais je prends des engagements sur la qualité de l'emploi. Sur la qualité contractuelle, on a diminué beaucoup, on a visé par deux nombre de CDD, on a fait disparaître le temps partiel imposé. Sur la compétence, sur la formation, sur les qualifications, sur les promotions, sur le cadre de travail, sur tout ce qui touche la qualité au travail, les éléments, y compris les éléments de santé, qui sont un sujet sur lequel le poste travaille depuis très longtemps. Et d'ailleurs, on a depuis longtemps des observatoires de la santé, un groupe de très grands médecins de toutes les spécialités avec qui on rencontre deux fois par an pour discuter avec eux, qui nous donnent un certain nombre de recommandations, etc. Avec les recommandations essentielles d'ailleurs de ces médecins, ils ne parlent jamais que de stress, parlez toujours de la santé au travail. Le vrai sujet, c'est ça. Si vous attaquez au stress, vous ne résolverez rien. Attaquez-vous globalement au sujet. Management, le sujet de la vision d'entreprise et le sujet de la santé au travail. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, j'ai presque terminé. Je dirais encore un mot sur en fait, pour réussir, il y a quand même un certain nombre de conditions. Je dirais, c'est comme dans un bateau, il faut soit du carburant, soit des bonnes voiles pour sortir de la tempête. Et donc, il nous faut des ressources. C'est pour ça que j'ai fait demander à ce qu'il y ait un changement de statut avec une augmentation de capital. On va avoir 2,7 milliards de ressources nouvelles qui sont absolument vitales pour conduire le formidable programme de changement et de modernisation qu'on a devant nous, puisque dans notre projet, on a à peu près 9 milliards d'euros à investir d'ici 2024. Donc, une grande partie, on peut les dégager par une optimisation du cash, on peut dégager une grande partie, évidemment, l'essentiel par un résultat. Mais comment on ne peut pas se conduire? Et puis, je terminerai simplement en disant que pour réussir tout ça, s'il n'y avait qu'un seul mot, que je n'ai pas prononcé, peu jusqu'à présent, exprès, c'est celui de la confiance. Si vous. Le secret, c'est de créer de la confiance. Et quand je parle de la santé de l'entreprise, son capital confiance, c'est ce qu'elle a de mieux. Son capital santé, son capital confiance. Confiance de tous. Confiance des clients, confiance de la qualité de service, confiance des salariés, grâce à la qualité de leur travail, confiance de l'organisation syndicale, parce qu'il y a un vrai dialogue et contient ses engagements, confiance des élus, parce qu'il y a un vrai dialogue et concertation sur le terrain, confiance de la société civile, parce qu'on est une entreprise citoyenne et qu'on s'engage sur le terrain de l'environnement. Bref, il faut créer ce climat de confiance avec toutes les parties prenantes. Alors, je pense qu'on peut vraiment traverser toutes les tempêtes. Et je termine simplement en rebondissant sur votre dernière question. Souvent, on me pose cette question, c'est quoi votre question déjà? L'engagement, ça sert à quoi? Voilà. Et j'ai toujours la même réponse. Souvent, mes discours comme ça, quand je vais voir mes 600 ou 700 cas, je dis, toujours un qui veut la main, alors qu'est-ce que vous évidemment. C'est simple. J'ai entendu mon discours, je vous demande de faire deux choses. Et peut-être que vous prenez chaque jour un coup de papier, puis vous écrivez en haut, en haut à droite, si vous, vous l'avez fait dans la journée, d'être un acteur de la performance et un créateur de confiance. Et surtout autour de vous, regardez la case créateur de confiance. Regardez chaque jour, c'est quoi votre action avec le client, avec les élus, avec vos agents, est-ce que vous avez construit ou détruit la confiance? si vous pensez que vous avez fait un bon résultat le jour-là, que vous vous êtes engueulé avec tout le monde et que vous avez détruit la confiance, je ne suis pas sûr que vous irez plus loin longtemps comme ça. Donc, faites créateur de performance et confiance. Voilà, merci.
On a bien compris que le mot de confiance était pour vous beaucoup plus qu'un slogan publicitaire du groupe La Poste, mais que c'était la constante de votre management, et tout votre discours a été très imprégné de cette exigence-là. Merci infiniment. Incidemment, vous nous avez un petit peu labellisé dans le titre qu'on avait imprudemment voulu donner à la soirée, Capitaine par gros temps, parce que quand on a essayé de faire un peu de biblio sur l'actualité de La Poste avant de vous accueillir, c'était quand même un calme relativement plat, et on s'est dit que le temps était calme. Pour vous, peut-être que la privatisation qui avait été agitée un temps, en tout cas le changement de statut, avait été passé comme une lettre à la poste, pardonnez-moi le jeu de mots, et vous avez bien donc remis en perspective les difficultés qu'on peut affronter quand on est là où vous êtes. Voilà, on va passer maintenant au débat. Donc je vais promener en direction des mains qui se lèvent le micro. On voit déjà une là-bas. On peut éventuellement grouper les questions s'il y a des forêts de mains qui se lèvent, mais on ne pourra en tout cas pas trop les grouper pour que chacun puisse avoir sa réponse.
Bonjour Robert Branche. Je voulais rebondir sur votre dernier propos sur la confiance en faisant l'écho d'une conférence qui est en ligne sur Internet. Je passerai les éléments à Michel, une conférence qui a été faite à l'École des Mines et qui compare l'ensemble des pays, de tous les pays, avec l'indicateur de confiance. Et de confiance dans les institutions et de confiance entre les personnes. Et c'est un des critères sur lesquels la France est le plus discriminée et avec des éléments les plus bas. Et c'est probablement un des facteurs explicatifs, selon cette étude, de notre déficit de croissance et aussi de notre besoin de constamment légiférer et de ne jamais faire confiance à l'autre. Donc je voulais avoir votre réaction par rapport à ça. C'est tellement en ligne avec votre conclusion. Je passerai les éléments à Michel si vous le faites en ligne. C'est sur mon blog par ailleurs.
Mais... Ouais. C'est très intéressant et si vous, je ne connais pas cette étude-là en particulier, mais vous me la passerez. Mais je connais ce phénomène-là. Et je crois qu'effectivement, c'est collectivement notre problème principal. Et voilà. Donc j'ai pas de réponse autre que à la place où je suis. J'essaye, conscient de cet enjeu-là, j'essaye de faire en sorte que la confiance soit effectivement le moteur essentiel, vous l'avez dit, à la fois de la croissance, du développement, de la réussite, c'est tellement évident. Mais ce qui me surprend quand même, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est tellement évident qu'on n'en tire pas tellement de leçons quand même, on n'en tire pas tellement de conclusions dans la manière de gérer, dans la manière de gouverner, dans la manière de légiférer ou pas légiférer, dans la manière d'organiser les relations entre les gens, dans la manière de former. Je pense que l'éducation a un rôle. La manière, pas ce qu'on apprend, mais la manière dont on apprend, et la relation, comment ça se construit à l'école, etc., je pense qu'il y a un rôle déterminant. Il n'y a qu'à voir. Enfin, il y a des pays anglo-saxons qui ont beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. En tout cas, dans ce domaine-là, ils ont une capacité de confiance entre eux et de confiance en eux et de confiance dans leur pays qui est une force formidable qui démarre à l'école. Hein. Je crois que tout le système éducatif est central dans cette construction de la défiance.
Ne pas trahir la pression générale de l'Assemblée en disant qu'on a tous été transportés dans la présentation de votre navire. Néanmoins, j'aimerais voir comment il se comporterait si on le plaçait dans une configuration de situation extrêmement dégradée. Pas de voile, mât arraché, ou perdu des vis. C'est-à-dire une situation où on se retrouve confronté à un ensemble, une entreprise, quelle qu'elle soit, non manœuvrant, qui n'a pas de performance créée, c'est une situation où le personnel se méfie. On pourrait multiplier les cas de figure, mais peut-être l'exemple où les boulons volent. Comment on redonne un début de mouvement, un début d'organisation dans des cas aussi dégradés?
Je ne sais pas si c'est possible. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui meurent, qui font faillite, qui disparaissent parce que pour des raisons ou pour une autre, elles se sont trouvées dans cette situation-là. Donc je pense que le rôle du manager, c'est pas savoir comment on fait quand on se trouve dans cette situation-là, mais c'est de jamais s'y trouver. Hein? Voilà. Et donc, avoir tous les éléments de vision, d'anticipation, d'innovation, éventuellement de modernisation ou de réorientation de l'activité. Et c'est pour ça que le rôle de l'aspect de vision et d'anticipation et de compréhension de l'environnement est absolument vital, parce que toutes les entreprises qui se sont retrouvées dans ce genre de situation, c'est en général qu'elles n'ont pas anticipé la rapidité de l'évolution de l'environnement, hein. Y compris des superbes entreprises, hein. Une entreprise comme Kodak, incroyable, hein. Après le numérique est terminé, rapide, en combien de temps? 10 ans, 15 ans. Voilà, donc je pense que vraiment la réponse, elle est que c'est une faute de management de se trouver dans un corner. Après, c'est à peu près toujours évité, hein, mais il faut essayer, il faut tout faire pour éviter.
Monsieur le Président, bonsoir. Ma question serait effectivement autour de ce problème de confiance et que, avec la crise que nous vivons tous aujourd'hui, informatique qui est assez malmenée, que ça serait l'occasion justement de donner un autre sens aussi, on parlait de sens tout à l'heure, à les nouvelles formes d'économie, je ne sais plus d'ailleurs avec l'internet et le numérique, et de mettre effectivement au centre, en priorité, le capital humain, c'est-à-dire la confiance des hommes et des femmes qui proposent l'entreprise, qui du coup servent bien les clients, et qui du coup vont bien servir l'actionnaire. On a quand même légèrement l'impression aujourd'hui qu'on est dans le système inverse. Internet, c'est la révolution dans le mauvais sens, et d'avoir d'abord mis l'argent, l'actionnaire au centre, après c'est pas des clients, c'est des commandes, puis après il y a des gens qui perdent, qui ont des balles, on les vire, on les graisse, etc. Et la question que je pose autour de ça, peut-être que je partage évidemment cette démarche, c'est clairement qu'est-ce qu'on peut faire, ou pourquoi il n'y a pas plus de présidents, de gens de haut niveau qui peuvent influencer un gouvernement, une communauté européenne, et avoir une forme d'action, et on aille un peu plus en ça, l'occasion étant donnée, avec cette crise quand même qui est majeure, à force bien se passer.
Je pense que les crises, évidemment, enfin, je pense qu'on essaye de les éviter, globalement. Il y en a qui sont ou provoqués ou simplement inévitables, parce que l'environnement est... Une fois qu'on est dans la situation de crise, je pense que la gestion de la crise et la gestion de la sortie de crise est quelque chose de tout à fait essentiel. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut se dire qu'il y a peut-être des possibilités de redéfinir un certain nombre de valeurs ou un certain nombre de règles du jeu. Et je suis pour le moment encore très, très hésitant et très sceptique. Un moment avec un peu de, quelqu'un plutôt d'optimiste, je m'étais dit avec la crise financière, etc., et les acteurs vont peut-être comprendre un certain nombre de choses et évoluer dans leur pratique. Et plus le temps passe, plus on a le sentiment que ce qu'on avait pensé à un moment, à savoir que ce serait une crise vraiment transformante, que ça change un certain nombre de choses, c'est pas évident. Il n'empêche que je pense que dans ces moments de crise sont des moments où tout d'un coup les choses deviennent possibles quand même. Et par exemple dans la construction de l'Europe, je pense que là, pour le coup, alors ce qui s'est passé depuis quelques jours a quand même fait faire, si l'Europe y survit, ce que je crois, des vision politique de l'Europe et dans la capacité à gouverner ensemble en mettant en place les bons outils de régulation qui ont permis de faire, je pense, des progrès. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je fais pour le moment un constat peu désabusé sur le fait que les leçons de la crise, elles sont dans les meilleurs bouquins, mais pour la mise en pratique, c'est moyen.
Oui, j'avais une question aussi à vous poser, enfin une double question par rapport à deux des acteurs, deux des partenaires que vous avez, l'actionnaire d'abord et puis les syndicats ensuite. Par rapport à l'actionnaire, vous avez l'État comme actionnaire, est-ce que c'est pas précisément une chance par rapport à votre modèle, parce que vous avez le temps de la... L'État a le temps du sens, de la stratégie, de la pédagogie qui doit être délivrée en interne, que n'ont pas nécessairement les actionnaires du secteur concurrentiel privé. Moi, j'ai été dirigeant d'un établissement public de l'État, puis d'une entreprise privée. Ce que j'ai fait dans l'établissement public de l'État, j'ai jamais eu le temps de le faire dans l'entreprise dont l'actionnaire était privé, parce que la rentabilité de court terme, la vision de court terme, permettait pas de prendre le temps, justement. Donc, est-ce que votre modèle est effectivement transposable quand l'actionnaire est d'abord préoccupé par la rentabilité de court terme? Et la deuxième question, c'est par rapport aux syndicats. Je reviens aussi à mon expérience dans le public, où les syndicats, leur raison d'être, souvent, c'est quand même d'exister en différence du patron, et de donc pas adhérer nécessairement au mouvement, à la dynamique, parce que leur existence même est dangereuse. Quelle relation vous avez avec les dirigeants syndicaux? Est-ce que vous les sentez derrière le théâtre de façade, sans doute, et la mise en scène qu'il doit y avoir tous les jours dans le débat? Est-ce que vous les sentez au fond, finalement, capables de bouger avec vous et adhérents à votre démarche?
Oui, sur le premier point, contrairement à ce qui se dit souvent, et y compris d'ailleurs des patrons d'entreprises publiques, moi je trouve que l'État et la manière dont il fonctionne maintenant, notamment avec l'APE, hein, qui regroupe bien dans un domaine de l'État la fonction d'actionnaire, le rôle d'actionnaire, l'État, s'il ne mélange pas les genres, est plutôt un bon actionnaire. Alors d'abord, s'il ne mélange pas les gens, ça veut dire que je pense que l'État est un détestable gestionnaire. Donc dans la gestion, j'ai vu comment la RATP, elle n'était pas gestionnaire, à partir du moment où, à juste titre d'ailleurs, l'État, la RATP, contrairement à la Poste, avait une très forte subvention budgétaire. À ce moment-là, l'État se dit que c'est son rôle d'interférer dans la gestion. Et ça, c'est rarement efficace. Donc, d'autre part, l'État a aussi des domaines dans lesquels il peut être le régulateur. Alors quand il est à la fois gestionnaire, actionnaire, régulateur et le politique qui définit, à juste titre, la politique publique, ça fait une multiplicité de l'État qui rend la relation avec l'État très compliquée. Quand cette relation se simplifie, ce qui est le cas de la Poste, l'État n'est absolument pas gestionnaire à la Poste, puisque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, évidemment, dans cette salle, vous le savez tous, la Poste ne vit absolument pas des contribuables. Contrairement à la CTF, contrairement à la RATP, dans le budget, il n'y a pas une ligne, et dans l'autre, vous avez le budget d'État, il n'y a pas une ligne Poste. La Poste ne vit que de la vente de ses services et de ses produits. Contrairement à ce que pensent 55% des élus et 60% des Français. Et vous, c'est sûrement pas ça, vous, normalement. Pas représentatif. Mais donc, la Poste n'a aucune relation avec l'État budgétaire. Et donc, il n'y a pas ce côté gestion. Il y a un régulateur qui est en place. Donc, c'est avec lui qui définit un certain nombre de règles, notamment les évolutions tarifaires. l'État ne joue plus que deux rôles, le rôle d'actionnaire, et puis le rôle du législateur, c'est-à-dire qui définit le cadre général, c'est l'État qui définit les missions de service public, c'est normal. Donc en gros, il définit les missions de service public, et il joue un rôle d'actionnaire. À mesure où l'État, le rôle de l'État comme ça est clarifié, et que les gens, en particulier dans la partie qui jouent le rôle d'actionnaire, sont des gens de très très bonne qualité. Comme on l'a vu partout, je veux dire, dans le domaine de la finance et dans le domaine des investissements, dans le domaine du trésor, etc., l'élite française est probablement la meilleure du monde. Hein. Donc c'est très très bon. Et là, dans ce qui s'est fait là en Europe et tout, c'est très très largement les élites françaises qui ont défini le cadre et qui ont conceptualisé le truc. Hein. Bon. Donc de ce point de vue-là, là, je trouve que la relation avec l'État est satisfaisante. Quand ça se passe comme ça, l'État est un bon actionnaire, c'est-à-dire qu'il est évidemment exigeant. Il ne faut pas croire qu'il n'est pas exigeant. Il exige, comme tout actionnaire, un niveau de retour sur capital, etc., dans une entreprise comme la Poste. Hein. Et avec l'entrée de la Caisse des dépôts va rentrer comme un actionnaire avisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle démontre à Bruxelles qu'elle n'a pas mis cet argent en capital de la Poste pour aider la Poste, ou pour faire en sorte que la Poste soit dans une position concurrentielle avantageuse par rapport à d'autres, mais qu'elle l'a fait parce que c'est un investissement judicieux et que ça va lui créer de la valeur et qu'elle va trouver une rentabilité correcte de cet investissement. Mais c'est dans le correct et le terme qui est toute la différence. C'est-à-dire que c'est des investisseurs exigeants, mais c'est des investisseurs exigeants à la fois raisonnables et sur le long terme. Et là, je pense que la différence majeure, il y a des investisseurs privés de long terme. Je pense que la différence majeure, elle est effectivement dans la nature de l'investisseur, et que les investisseurs de très court terme, qui ne sont pas fondamentalement intéressés au développement et à la création de valeur sur le long terme, sont sûrement des actionnaires qui rendent ce que j'ai dit aujourd'hui très difficile à entendre. Ça, je pense. Mais je ne ferai pas totalement la distinction totalement privée-publique. Par exemple, je pense que les grandes boîtes familiales sont dans une situation assez proche de celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais c'est les boîtes familiales qui sont plus familiales aussi. Celles qui, prenez, je ne sais pas moi, une entreprise comme, je vais citer une entreprise comme Auchan. Pas loin de ce que j'ai donné, assez proche. On discute souvent avec les gens d'Auchan, assez proche. Auchan, c'est une entreprise privée. Mais ils ont développé, par exemple, bien qu'ils n'étant pas cotés, ils ont développé un actionnariat salarié extraordinaire. C'est un peu faire des choses. Voilà. Une deuxième question à porter sur les syndicats. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que dans l'organisation du dialogue social, il y a des syndicats et des agents. Et que, évidemment, il faut avoir une bonne relation avec les syndicats. C'est avec les syndicats que se négocient un certain nombre de règles, et c'est avec les agents qu'elles se gagnent. Et donc, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps dans la pédagogie, dans l'explication, dans l'accompagnement des agents et des salariés eux-mêmes. Ce qui ne plaît pas aux syndicats, souvent. Et ça fait super raison. Il faut le faire. Et à partir du moment où ce travail de régulier, de profondeur, de pédagogie avec les salariés a été fait, c'est devient beaucoup plus difficile pour les syndicats de prendre des positions qui, quelque part, sont en décalage avec ces agents-là. S'ils le font, ils lancent des ordres de grève qui ne sont pas suivis ou des choses de ce type. Donc dans l'organisation du dialogue, je pense que c'est une faute de ne voir que le côté syndical. Il faut voir aussi le côté des agents, la manière de travailler avec les... communiquer avec les salariés et les salariés eux-mêmes. Ceci dit, les organisations syndicales sont, je trouve, sont globalement en difficulté. Elles ont du mal à... d'abord, il y a beaucoup de désaffection. Elles ont beaucoup de mal à recruter auprès des plus jeunes. Elles ont beaucoup de mal à coller à la réalité des attentes des plus jeunes et à l'évolution de l'environnement. syndicat bien formé. Moi, personnellement, je trouve que partir du moment, je sais qu'en France, on est dans un modèle, un peu d'opposition. Hein. Le syndicat ne revendique jamais rien en termes de gestion, contrairement au modèle allemand. Alors, je comprends bien qu'il y a entre les actionnaires, les patrons, les salariés, des éléments de divergence, mais il y a des éléments aussi de convergence. Et mon convergence principale, c'est quand même que tout le monde a intérêt à ce que la entreprise se porte bien, me semble-t-il. Donc voilà, moi je regrette qu'on n'arrive pas à avoir des syndicats plus forts et plus réformistes.
J'aurais une question qui s'enchaîne un peu sur la précédente. Quels sont finalement les indicateurs réels que vous avez pour mesurer cette confiance jusqu'à la base de l'entreprise et la volonté de performance, sachant que vous avez des clients par 100 000 agents, au niveau hiérarchique, hein, comme vous avez dit. Donc, comment est-ce qu'on arrive à les mesurer jusqu'à l'agent de terrain, la réalité de cette confiance et de sa motivation pour la performance? Quels sont vos indicateurs et pour
ça? Ça, c'est. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui le font, ça. Qui mesurent, qui ont en permanence des systèmes d'enquête, de sondage pour mesurer la satisfaction, la confiance, la relation avec le management, etc. Donc, je veux dire, on n'y passe pas plus de temps que les autres à ce sujet-là. Hein. Parce que là où on passe plus de temps, c'est vraiment dans les méthodes de management de s'assurer que on est dans des relations qui créent de la confiance plus que dans une obsession de mesurer la confiance, d'autant plus qu'on sait très bien que par exemple si en ce moment quelle que soit l'action de la poste, je mesure la confiance à la poste, elle en fut libre, elle en fut libre parce que la poste, elle en fut libre juste parce que la confiance globalement n'est pas là. Donc c'est extrêmement difficile surtout dans une entreprise qui est totalement immergé dans la société française, qui est un échantillon absolument représentatif, parce que c'est exactement 1% des salariés en France, la Poste, avec exactement la proportion d'hommes et de France, d'hommes et de femmes qu'il y a en France, il y a 51% de femmes, la Poste. Bon. Donc je sais très bien que si je fais des mesures, ça va à peu près donner, hein, les mesures que ça donne si je fais un sondage sur tous les Français. Je fais pas trop ça. C'est pas non plus en aucune manière un objectif formulé de manière mesurée en tant que tel. C'est beaucoup plus dans la philosophie et dans la méthode.
Je vais rebondir encore sur cette question. C'est du point de vue de la ligne managériale, comment vous mesurez le fait qu'ils soient créateurs de confiance? Est-ce que vous leur fixez des objectifs? Est-ce que vous valorisez en fait ça dans le mode de management? Comment vous y prenez? Parce que c'est une question qui revient de plus en plus, notamment avec tout le débat sur les risques psychosociaux. On parle de fixer des objectifs RH, des objectifs de performance sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment...
Oui, moi je pense que c'est... On ne fixe pas des objectifs qui, en tant que tels, hein, sont des objectifs de confiance. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, la manière dont les objectifs sont formulés et fixés, d'abord ils sont discutés. Il peut y avoir un désaccord, mais ils sont discutés, c'est pas juste des objectifs et à tous les niveaux. Ça se fait beaucoup, au niveau d'un COMEX, etc., il y a des objectifs. Moi, tous les directeurs généraux adjoints ont des objectifs, mais qui sont juste discutés. Je dis, va dire, c'est tout ça. Qu'est-ce qui est possible de faire? Pas possible, ça va être rajouté celui-là, etc. Donc, on fait des objectifs d'abord, la manière dont c'est élaboré est très importante. Et deuxièmement, ensuite il faut essayer de faire en sorte que un certain nombre d'éléments de la performance durable, comme je disais tout à l'heure, s'y retrouvent. C'est pour ça que les feuilles de route ou le et il comporte toujours, depuis 2 ans maintenant, des éléments qui mesurent l'aspect plus responsabilité sociale de l'entreprise. Autour de différents aspects. Alors, ça prend toujours, c'est toujours des éléments de mesure un peu spécifiques comme l'emploi des handicapés, comme le pourcentage de promotion chez les femmes, un certain nombre de choses de ce type-là, mais qui à la fois sont des objectifs en soi et surtout donnent le signe que la performance n'est pas juste la performance économique.
Oui, je voudrais revenir sur les questions de dialogue social. Est-ce qu'il y a des spécificités propres aux établissements publics sur la nature du dialogue social par rapport au privé? Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont certainement différents en termes de taux de syndicalisation, nombre de jours de grève. Peut-être aussi, est-ce que le mode d'expression ou le mode de rapport des syndicats est différent? Quels sont les grands déterminants? Comment caractériser ces différences?
C'est pas facile parce que j'ai fait que des entreprises publiques, moi, alors donc j'ai pas ma connaissance des syndicats par ailleurs est plutôt, si ce n'est l'ivresse, en tout cas pas de vécu. Je pense que le plus important, et ça va pas te faire de question, mais je pense que le plus important dans le dialogue social, c'est de bien le structurer, de bien l'organiser. C'est-à-dire de faire en sorte que le dialogue social soit un peu le reflet du mode d'organisation et de gestion de l'entreprise. À partir du moment où on a mis en place une entreprise à 3 niveaux de responsabilité, on a structuré aussi le dialogue social sur ces 3 niveaux. Et à partir du moment où les responsabilités et les marges de manœuvre sont connues à chacun des niveaux, on a calé le champ de légitimité ou de prérogative du dialogue social sur ce niveau-là. C'est-à-dire que si vient un conflit dans un établissement à cause d'un problème de salaire, évidemment, c'est pas au niveau de l'établissement qui est réglé. Et j'ai l'établissement d'écouter ce que vous voulez, mais moi je suis absolument pas compétent et c'est un sujet qui... Et donc, ça prend du temps, ça, parce qu'il faut convaincre tout le monde. Mais je pense que de faire en sorte que, au même niveau managérial, il y ait des interlocuteurs syndicaux avec des règles de fonctionnement de dialogue qui sont bien établies, est une des conditions d'un dialogue fructueux. Et souvent, on me pose la question souvent, vous êtes un homme de dialogue, tout ça, de ne pas avoir des relations exceptionnelles avec les leaders syndicaux, pas du tout. Vous avez des relations normales, mais c'est pas des relations, parfois les gens sont très amis, etc. C'est pas des relations amicales. C'est des relations de grands, on se connaît, on se respecte, on s'apprécie, on est venu à prendre des engagements les uns les autres qu'on a tenus ou pas tenus. On a tenu, c'est mieux. Mais je ne pense pas que ce soit la proximité ou l'amitié ou ce type de relation entre des grands patrons, des grands syndicalistes qui fassent progresser fondamentalement les choses. Je pense qu'il se fait fondamentalement progresser les choses, c'est la qualité du dialogue avec les députés. L'autre aspect est utile aussi. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi déterminant que la qualité du dialogue à tous les niveaux. Parce que s'il y a la qualité du dialogue à tous les niveaux, en réalité, les conflits ne remontent pas. Donc on ne se retrouve pas dans des situations où on a à faire des arbitrages au plus haut niveau. Mais ça ne répond pas totalement à la question, mais c'est des éléments que je peux vous donner. Mais sur l'autre, je ne sais pas trop. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je n'ai pas assez d'expérience.
Monsieur le Président, bonsoir. À travers toutes les démarches qualité que vous avez au sein du groupe, le SQA, le dommage féminin, l'affiliation de services, de quelle manière ces outils de performance permettent de fédérer et d'être un projet novateur pour les parties intéressées, un cas expert, s'il vous plaît?
Ah oui, c'est très important. C'est très important. Je vais vous donner un exemple précis. Ça a mis du temps, hein, mais aujourd'hui on y est à peu près arrivé. Par exemple, la qualité du service, de l'accueil, de l'attente dans les bureaux de poste. Un problème depuis toujours, très difficile à résoudre, qui n'est pas résolu partout dans le changement. Mais si vous regardez aujourd'hui le travail qui a été fait dans tous les bureaux de Paris, avec d'abord un énorme travail de fond sur l'organisation, puis la fixation d'un certain nombre de standards sur et chaque bureau de poste statistiquement est testé tous les mois sur sa qualité de service avec des standards et avec la mesure d'un standard qui est atteint, qui n'est pas atteint mais dans des proportions qui ne sont pas inacceptables ou qui est inacceptable. Et on suit tous les ratios d'objectifs atteints et de situations inacceptables. Parce que on a souvent le sentiment que c'est la situation inacceptable qui fait vraiment la mauvaise réputation et la mauvaise image. Donc on a défini ce qui était inacceptable et on a défini ce qui était le standard. Et on mesure en permanence la manière dont progresse le standard et dont disparaît ou éradiquer pratiquement des situations inacceptables. Et ça, alors, pour le coup, contrairement à des indicateurs de globaux, de confiance ou de satisfaction qui ne sont pas des outils de management, ça, c'est des outils de management formidables. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ça fait l'air parce que c'est au cœur d'un projet. C'est au cœur d'un projet qui est un projet de relation de service. Et de repositionner complètement, y compris et avec une pédagogie sur le projet. Le projet, c'est le projet d'excellence de la relation de service. Et il faut que les gens comprennent pourquoi la relation de service est évidente. C'est que, en particulier avec les nouvelles technologies, la demande de relation change. La demande, la formulation de la relation au guichet change. Les gens viennent moins au guichet. Et quand ils viennent au guichet, ils sont infiniment plus exigeants. Ils veulent trouver beaucoup plus que ce qu'ils trouvent dans un automate ou par Internet. Donc ils veulent de la qualité de relation, ils veulent de la qualité de conseil, ils veulent de la valeur ajoutée. Donc ça veut dire qu'on a un formidable travail à faire en termes d'organisation et en termes de qualification des gens. Il va y avoir moins de gens dans les guichets. Mais ils vont avoir un niveau de qualification et une capacité de relation et de conseil qui va ne faire que progresser. Donc oui, c'est absolument central dans la fédération, le côté fédérateur. Et d'ailleurs, et en plus, c'est naturellement fédérateur. C'est-à-dire, la performance économique, elle n'est pas naturellement fédérateur. Mais il y a des sujets qui sont naturellement fédérateurs. La qualité est un sujet naturellement fédérateur. Dans une certaine mesure, la sécurité est un élément fédérateur. Le choix, toute la politique environnementale est très fédérateur. Donc vous avez comme ça des politiques que vous pouvez mener qui sont des politiques naturellement fédératrices et qu'il faut essayer de mener, bien sûr.
Merci, M. le Président. Je crois qu'on approche du temps qui nous était imparti. Nous tolérez-vous une dernière question?
Oui, bien sûr.
Bien sûr. C'est peut-être la dernière.
Bien sûr.
Merci, Président. Vous avez tout à l'heure, en parlant de la confiance, indiqué qu'un des paramètres était que le départ de vos salariés devait être naturel. Alors, la question se pose immédiatement derrière. Comment gérez-vous l'évolution des besoins à l'intérieur de la poste, de toutes les qualifications à tous les niveaux, toujours trouver dans vos réserves des personnels dont vous avez besoin?
Je dirais que dans l'ensemble, la réponse est oui à votre question. C'est-à-dire que d'abord il y a deux sujets. Il y a un sujet, j'allais dire, presque quantitatif. C'est-à-dire que il y a un certain nombre, il y a des départs naturels, et on fait évoluer les organisations de manière à ce que le cadre d'organisation, c'est-à-dire les effectifs nécessaires, diminue. Bon. Et on ajuste le taux de départ naturel est ce qu'il est, et puis on ajuste, ce qui est normal, on ajuste. Si le, parce qu'en général, gouvernance globale. Je ne sais pas si basique que ça, mais on y arrive. Après, vous avez, une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas fini. Parce qu'il y a après tous les ajustements fonctionnels, ce que vous dites, formation, compétence, tous les problèmes de mobilité, tous les problèmes géographiques. Et donc, on a des énormes programmes d'accompagnement, de formation et de mobilité et de requalification dans l'entreprise. Oui, c'est un énorme chantier, mais qui concerne tous les métiers. Ça concerne le courrier, ça concerne les bureaux de poste, ça concerne les centres financiers. Tout sont dans ce même dispositif. Il y a un dispositif global d'adaptation permanente des compétences et d'organisation de la mobilité.
Je crois que sur cette question, on va pouvoir remercier chaleureusement M. Bailly d'être venu à nous ce soir. Un grand merci, M. le Président. Alors, deux mots à l'attention des participants. Donc, les différentes associations, enfin, tous les organes vont forcément en profiter dans les mois qui viennent pour mettre en ligne un peu un parfum des trois débats auxquels nous avons assisté, dont celui de ce soir. Le président, si vous en êtes d'accord, donc on mettra en ligne le en sonore de votre intervention et des échanges qu'on vient d'avoir dans les jours qui viennent, et puis on vous soumettra dans quelques temps, quand on aura rédigé, les extraits pertinents qu'on voudrait publier. Et à l'attention des participants, je vous remercie au nom de nos organisations d'avoir fait le déplacement ce soir. Nous avons l'intention de remettre un peu les couverts l'an prochain, sur un autre thème évidemment, mais enfin dans une formule un petit peu comme ça, qui nous permette, nous aussi, comme on a essayé de faire avec M. Bailly, nos précédents orateurs, de mobiliser nos intelligences dans une relation de meilleure confiance et de discerner un peu les structures qui nous permettront de, à la fois en tant que patron et en tant que collaborateur, d'être efficace et d'être heureux dans nos travaux. Merci beaucoup, M. Bailly, merci à tous.